aime l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission, le magazine quotidien de Radio Évasion, qui reçoit une fois par mois, vous le savez, le réseau paysan et rural, le CIVAM du Finistère, ses adhérentes et adhérents qui viennent nous parler de leur quotidien agricole. Et aujourd'hui, un de mes sujets préférés. Figurez-vous qu'on est même en train de réaliser une enquête radio sur ce délicieux sujet, le fromage. Eh oui, il n'y a pas de tradition fromagère en Finistère. Chez nous, c'est le beurre ou rien du tout, enfin, un peu de lait ribot, un peu de gros lait. Aucun fromage ancestral comme le camembert, le comté. On enquête sur le pourquoi, on vous transmettra l'information en temps utile. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le futur du fromage breton avec nos invités, ceux que Isor Solet, animatrice du CIVAM, a convié pour nous. Alors, il y a Amélie Glouaguin qui est porteuse de projet en transformation de lait de chèvre à Plougastel d'Aoulas. Si tout va bien, nous rejoindra en cours d'émission Alexis Plouzenec, éleveur de vaches à Plomelin qui se lance aussi dans la transformation. Et donc, Isor, bonjour à vous deux pour l'instant, mesdames.
Bonjour.
Alors Amélie, on va commencer avec vous. Et voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes de votre projet et qu'est-ce que vous prévoyez de faire à Plougastel.
À Plougastel. Et j'en suis que je crée mon troupeau. Et que voilà, maintenant que j'ai mon troupeau, que j'ai du lait, il faut que j'ai un lieu pour transformer ce lait officiellement. Et pour pouvoir dire que je suis fromagère, me déclarer, m'installer et vendre sur les marchés.
Alors, votre troupeau, donc vous avez déjà les chèvres. Hein, comment on constitue son troupeau, juste pour savoir là,
Alors, je ne sais pas s'il y a une règle. En tout cas, moi, je suis partie d'un stage où je voulais voir les mises bas. Et donc, je suis partie de ce stage avec 4 chevrettes. C'était le cadeau de fin de stage.
Ah ouais.
Et donc, depuis, voilà, j'ai racheté d'autres chèvres et puis un bouc.
Et oui.
Et bizarrement, tous les ans, il y a un peu plus de chèvres.
Et elles sont où alors
Alors moi je suis hébergée dans une ferme, il y a déjà un éleveur de vaches allaitantes et il y a déjà une maraîchère qui se partage à un lieu à Plougastel.
Ah, d'accord, donc ouais, elles ne sont pas quand même, je ne sais pas, dans votre appartement.
Et non, non.
Vous visez combien d'animaux c'est quoi le nombre optimal, je ne sais pas.
Souvent ce qui se dit c'est quand on est éleveur, transformateur et qu'on sort, on fait la vente soi-même, on est à une quarantaine, 45 chèvres par tête, par personne. Là, moi, je ne me suis pas vraiment fixée d'objectif. Je sais que je vais avoir une race qui ne produit pas énormément.
Et alors, c'est quoi, oui, comme
c'est
race?
C'est la chèvre défaussée. Mmh. Voilà.
Je crois que c'est une bonne race.
Ouais, ouais. Elles sont très belles.
Elles viennent d'où?
c'est la race la plus locale en chèvre. C'est la race du Grand Ouest.
D'accord. Voilà,
qui était là pour entretenir les talus dans les parages. Il y avait souvent une ou deux chèvres dans la ferme qui s'occupaient de ça.
Elles sont assez grandes, hein, si j'ai bonne mémoire, ces chèvres défaussées.
Non, c'est l'inverse. Par contre, elles ont des beaux poils bien longs et une robe très variée comparée aux autres races qui ont souvent la même robe. Voilà, donc on peut bien les reconnaître, elles ont leur caractère.
Oui, et en termes de caractère, justement.
Aussi.
Sympa ou plutôt...
Oui, les chèvres, c'est toujours très sympa, ça vient chercher... Là, en ce moment, c'est très marquant. Elles sont en gestation. Les petits, c'est pour dans un mois.
Ouais.
Et donc là, il doit y avoir les hormones qui travaillent. Si elles viennent se faire papouiller, elles se collent toutes à moi.
Ouais. C'est la saison de la gestation. Enfin, oui. C'est la saison normale pour les gestations,
voilà,
des chèvres.
Souvent, les chévriers font naître vers février-mars pour profiter de la pousse de l'herbe du printemps.
Donc, puisque vous êtes là, on va lancer un appel. Vous cherchez donc quel genre de terrain, quelle surface à Plougastel?
Alors moi, on me prête les terres dans la ferme où je suis. Et au fur et à mesure, l'éleveur de vaches allaitantes, lui, il est plutôt en fin de carrière. Et donc, on va se croiser. Il va libérer des terres que moi, je pourrais récupérer si les propriétaires sont d'accord.
Ah oui, c'est ça. Et voilà. Il faut des terres, pour des chèvres, il faut des terres spécifiques, enfin accidentées, je sais pas, elles aiment bien escalader, non? Il leur faut des talus, justement.
Souvent, ce qu'on dit, c'est que les chèvres ne mangent pas la tête en bas, mais elles mangent plutôt la tête en haut, donc elles vont chercher lierre, ronce, branchage, mais elles sont très contentes aussi de manger de la bonne herbe. Donc moi, ça, plus c'est varié, plus ça va.
Ouais, il faudra aussi du bocage, enfin il y en a peut-être déjà.
Oui, oui. Voilà, cet été, c'était très bien d'avoir des haies, parce que c'était le dernier endroit où il y avait à manger, par exemple.
Et oui, on va en reparler. On va reparler des problèmes de sécheresse. Et c'est du bio, je ne vous ai pas demandé, mais ou pas
L'idée, c'est de... Oui, oui. Bah alors du coup, pour l'instant, je suis pas déclarée, je crée tranquillement, donc j'ai pas de label ni quoi, mais dans l'idée, ça sera de faire en bio, ouais.
Et vous vouliez dès le départ faire la transformation, enfin ça faisait partie de votre plan.
Ah bah c'est l'objectif.
Ouais. Et pourquoi?
Ah bah parce que le fromage de chèvre c'est trop bon.
Nous sommes d'accord. D'accord, bon, très bien. On va revenir plus en détail après sur la façon dont tu fais du fromage de chèvre, puisque Alexis Plusenec est là. Bonjour Alexis. Donc vous, est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation et votre projet?
Alors oui, moi j'ai repris la ferme familiale en 2021. Donc c'était une ferme laitière conventionnelle, donc de vaches.
Bien en face du micro, s'il vous plaît.
Oui. Et donc là, je m'associe en fait ce printemps-ci avec ma voisine, et puis on a pour projet de développer un atelier de transfo et de vente directe du coup.
Et donc vous allez rester en conventionnel, vous pensez passer en bio? Ben,
on avait songé à une conversion en bio, mais c'est vrai que les marchés sont un peu saturés, parce qu'il y a toujours une partie de vente en laiterie. Mm-hmm. Du coup, pour l'instant, les pratiques de fait sont bio, enfin c'est vers ça qu'on tend en tout cas, mais le label n'est pas là.
Et alors vous avez combien de vaches, enfin quelle race de vaches en tout, à vous deux?
Alors moi j'ai repris donc l'exploitation de mes parents, c'était des Primolstein, et il y en avait une cinquantaine, et aujourd'hui on a un objectif d'une quarantaine de vaches, et du coup on a fait des croisements.
Ouais.
Donc j'ai quelques bretonnes pinoires qui correspondent à mon projet de transfo.
Et ça se croise avec les Holstein, ça, non?
Oui, on peut croiser toutes les races en même temps.
Parce qu'elles ont tellement des gabarits différents qu'on se dit que ça va poser des problèmes pour l'accouchement, entre guillemets.
Elles sont solides.
Ah ouais, bon, très bien.
Mais on peut, oui. Et sinon, j'ai des Holstein, du coup, des Jerseyaises aussi. Et puis,
Parce que les Holstein sont pas vraiment réputés pour leur lait n'est pas vraiment réputé pour la transformation du fromage, si, je crois.
Pas vraiment. Après, moi, j'entendais un fromager de Brest, Denmark, qui disait qu'il préférait un lait de Holstein issu d'un bon élevage qu'un lait de race fromagère issu d'un mauvais élevage.
Ouais.
Donc ça va dépendre beaucoup de l'alimentation aussi.
Oui.
Après, le problème, c'est en système extensif, la Holstein, c'est pas la plus adaptée, quoi.
Parce que vous, ça sera vraiment, vous avez suffisamment de terre pour pouvoir les nourrir à l'herbe.
Ouais, voilà.
Ok. Ah, vous deux, donc en tout, vous êtes deux exploitations côte à côte, enfin, c'est ça?
Non,
vous
en fait, c'est vraiment une association sur l'exploitation familiale historique.
Ah oui, d'accord.
Donc, la personne était extérieure au projet au début. Et, puis,
Et c'est vous qui avez voulu faire du fromage, c'est elle?
Ouais, non, c'est moi.
Pourquoi?
C'est moi plutôt. C'est un peu pareil qu'Amélie, hein, déjà c'est bon, le fromage. Et avoir plus d'autonomie, ne pas... Moi j'ai vu mes parents... râler des années du prix du lait, de la difficulté de se tirer un salaire et tout. Alors, ne pas se plaindre de ne pas pouvoir se tirer un salaire quand on travaille des heures et des heures.
Ouais. Alors que quand on vend du fromage, bon, maman, on fait une plus-value plus importante, c'est ça?
C'est ça, et puis on est autonome sur sa manière de déterminer aussi sa production, son chiffre d'affaires.
Ah oui, alors qu'est-ce que vous voulez faire comme type de fromage, vous savez déjà?
Au début, moi, je partais sur une tome, tout simplement.
Comme on voit beaucoup en Bretagne,
comme
finalement.
Comme on voit beaucoup, parce que c'est peut-être la technologie la plus facile à maîtriser au début.
Oui, parce qu'on va parler aussi, c'est difficile de faire du fromage. Ouais.
Et après, oui, avec le savoir-faire, peut-être diversifier la production. Ouais.
Mm-hmm. D'accord. Et donc, vous faites partie du CIVAM aussi, et le CIVAM a eu la très bonne idée de... Alors, il y a une raison, Isor Solet, c'est qu'il y a beaucoup de paysans fromagers, c'est ça, dans le CIVAM, c'est la majorité, le métier le plus représenté, je crois, non?
Je ne sais pas si c'est le métier le plus représenté dans les adhérents du CIVAM, mais en tout cas, entre 20 et 30 adhérents qui pratiquent la transfo fromage.
Ouais, parce qu'en fait, finalement, quand on est en petite production, on peut pas se passer de transformation. Enfin, on peut pas faire que du lait et en vivre aussi.
Ça, je pense que c'est chacun mène son exploitation comme il peut, veut, en fonction de son territoire. Après, il y a des particularités dans le Finistère. Par exemple, il n'y a pas de ramasse de lait en chèvre, en laiterie, dans le Finistère, par exemple. Donc, si on veut être en chèvre dans le Finistère, il faut forcément faire de la transfo pour écouler son lait.
Ah ouais.
Voilà, il y a des choses comme ça. Après, il y a des gens qui sont, comme Alexis, qui vendent le lait à la laiterie et qui ont projet de faire de la transfo. Il y a des gens qui font que de la transfo. Enfin voilà,
Et là, dans la vingtaine de paysans fromagers du CIVAM, c'est surtout la vache, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chèvres.
Si on prend l'exemple du voyage qu'on a fait en Auvergne, il y avait huit paysans, paysannes et artisanes, et il y avait trois personnes en chèvre, une personne en brebis et le reste en vache.
Ah, il y a brebis aussi.
Il y a aussi brebis, ouais.
Bon, super. Et donc, comment s'est organisé ce voyage ? Enfin, qui a souhaité le faire ? Pourquoi ? Et puis, pourquoi le choix ? Alors, la destination, c'est...
Historiquement, on va dire qu'il n'y a pas de tradition fromagère dans le Finistère. Donc, c'est vrai que depuis longtemps, le CIVAM travaille sur ces questions-là. Les adhérents se sont regroupés déjà depuis les années 2000 pour travailler les pratiques de transformation et de réfléchir à leur ferme avec une transformation fromagère. Et c'est vrai qu'on fait des formations tous les ans avec un technicien qui vient pour essayer de travailler sur ces questions-là, les différentes transformations qui existent. Et puis, dans les conversations, au fur et à mesure des besoins, des envies, se créer cette idée de voyage. On a eu des financements par la DRAF, donc du coup par l'État, qui nous a permis de faire ce voyage aussi, qui nous a permis de concrétiser ce voyage. Et l'Auvergne, parce que il y a pas mal d'adhérents qui ont des attaches en Auvergne aussi, donc du coup ça facilitait de mettre en place ce premier voyage. Il y avait déjà des contacts, un des participants avait fait pas mal de stages en Auvergne, un autre vient d'Auvergne, donc du coup c'est vrai que c'était plus simple et il y a une forte tradition fromagère là-bas.
Ah bah oui, c'est sûr.
Hein. Et c'est pas trop loin.
Alors vous êtes allé où exactement en Auvergne, parce que pour qu'on sache quel fromage vous avez étudié.
On est allé au sud de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, à la limite du Cantal. Donc du coup, on a fait un petit peu du nord du Cantal et pas mal du sud du Puy-de-Dôme.
Mm-hmm.
Voilà.
Et combien de temps ?
On est parti 4 jours.
Alors qu'est-ce que vous avez appris respectivement, Laure Amélie ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Il y avait pas de chèvres là pour le coup. Enfin...
Alors on a quand même visité un élevage qui avait un troupeau mélangé chèvres et brebis.
Ah d'accord.
Donc, ils ont quand même pas que des vaches. même si les fromages les plus connus c'est clairement des fromages au lait de vache. Mais on était dans le pays où peut-être je sais pas si c'est là où il y a le plus d'appellations, mais il y a les Saint-Nectaire, il y a les Fourmes, il y a le Cantal, le Salers, le bleu de l'accueil par exemple. Donc on a un bon petit éventail des appellations. Et donc ça permettait de remettre en contexte quoi, le fait... En fait, là-bas, le débouché, par exemple, c'est comme si c'était une question qui ne se pose pas, parce que partout en France, en fait, on réclame ces fromages dans à peu près tous les magasins.
Oui.
Donc je pense que là-bas, la vente, ça ne pose pas trop de problèmes. Après, il y a un côté où c'est facilitateur et un autre côté où, pour répondre à... Pour pouvoir s'appeler Saint-Nectaire, par exemple, faire partie de l'appellation, il y a des contraintes.
Ouais.
Et est-ce qu'on est prêt ici à accepter ces contraintes ? On n'est peut-être pas tous prêts à le faire. Par exemple, le lait, il faut le travailler directement après la traite. On ne peut pas le mettre en attente.
Et vous, parce que vous, que ça vous arrangerait de pouvoir le mettre en attente, c'est ça, non ?
Par exemple, là, il y en a beaucoup qu'on a rencontrés et qui font double traite, donc matin et soir. Donc ça veut dire que tous les matins, tous les soirs, non seulement on traite, mais en plus, on passe tout le temps à faire du fromage, puis tout le temps à faire de la vaisselle. Compter sur une journée, ça fait beaucoup. Il y a aussi l'élevage à côté, enfin voilà, il y a...
Et donc vous pourriez, si vous n'aviez pas ce cahier des charges contraignant, vous pourriez faire la traite, laisser le lait attendre, enfin je sais pas, au frais évidemment. Mais,
Oui, le lait de report, c'est des choses qui se font. Il y a beaucoup de fromagers qui s'occupent de leur lait tous les 2 jours par exemple, il n'y a pas de souci.
Mais ça change peut-être le goût du fromage.
Il attend sagement au frigo ça permet de faire une maturation froide. Ouais.
Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez faire comme fromage vous, Amélie, en Finistère, enfin, quel type de fromage ? Ça ne serait pas un bleu de chèvre ? Enfin, ça serait un fromage de chèvre classique ?
Ça se pourrait bien, un bleu de chèvre, dans l'idée. Moi, c'est ce qui m'intéressait, entre autres, dans ce voyage. C'était d'aller rencontrer des personnes qui font du bleu et surtout du bleu de chèvre. Bon, là, on n'a pas pu aller voir le bleu de chèvre, mais oui, c'est l'idée aussi.
Et vous aviez fait d'autres stages, à part ce voyage d'études, vous aviez déjà fait des stages
Oui, j'ai parcouru quelques petites fermes dans le Finistère et je suis salariée aussi dans une ferme où je fais des yaourts. Donc,
Ah oui, oui. Voilà, gravité dans le milieu fromager.
C'est ça.
Et vous, Alexis, qu'est-ce que vous avez appris de ce voyage ?
Bah oui, un peu pareil qu'Amélie. C'est vrai, on peut s'inspirer là-bas de leur savoir-faire, parce que ça fait longtemps, enfin, c'est traditionnel là-bas, le fromage chez eux. Donc, c'est ouais, voir déjà d'un point de vue technique comment ils font leur fromage, déjà, tout simplement, le matériel, quel lait, quelle race de vache, et puis après aussi, surtout les. Leur débouché, comment ils le commercialisent, comment ils peuvent s'organiser entre eux, entre producteurs. On avait visité un magasin de producteurs, du coup, aussi, pour écouler leurs produits, quoi. Donc, comme il y a de l'appellation, c'est vrai que ça facilite
c'est sûr.
Une partie de la vente. Mais il y a quand même aussi, c'est une région quand même, c'est ce qui m'a marqué, c'est assez enclavé quand même là-bas, c'est la montagne. Mm. C'est pas très densément peuplé, alors...
Et ils vendent quand même bien leur fromage.
Ils vendent quand même bien leur fromage. Quoi. Mm-hmm. Hors saison touristique, parce que nous, on était hors saison touristique.
Ah oui, oui. Oui, c'était quand ? C'était en février, en janvier, là ?
Début janvier.
Ah oui. Ah oui, en effet. Mm. Et les secrets de fabrique... Enfin, le fromage, c'est vraiment quelque chose de très technique. Je ne sais pas si les auditrices et auditeurs ont conscience de ça. Ils ont partagé un peu les secrets. Enfin, qu'est-ce que vous avez compris là-dessus ?
On a pu assister à une transfo de Saint-Nectaire. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de secret, je crois, en général. Et après, oui, bah, l'appellation va obliger un certain protocole, une certaine fabrication. Mais après, tous les fromagers ont un peu leur façon de faire, en fait. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça des secrets, mais ça va dépendre vraiment de la personne qui transforme et du matériel qu'elle a, du lait qu'elle a.
Vous, Alexis Plouzenec, vous avez commencé à faire votre labo ou vous allez le monter, votre labo ?
Là, je suis en train de le fabriquer un peu, ouais.
Alors, vous pouvez nous raconter un peu les contraintes, justement, tout ce que ça suppose ?
Bah déjà, ça suppose de connaître un peu la fabrication du fromage pour savoir comment l'agencer. Mm-hmm. Ensuite, il y a quelques contraintes, du coup, sanitaires à respecter, mm-hmm. sur les évacuations, tout ça, sur le traitement des eaux usées. Mm-hmm. Donc ça, bah, j'avais fait une formation, d'ailleurs, c'était le GDS, ouais, qui dispensait cette formation.
Qu'est-ce que c'est, GDS ?
C'est, comment ça veut dire quoi ?
Groupement de défense et sanitaire, de sécurité.
Ouais, c'est ça.
Bah, maintenant, ouais. Je ne sais même plus si ça existe encore.
Ah.
Si.
Ouais, bah, sûrement, hein, parce que tout ce qui est sanitaire, en général, ouais. Ça... Ouais.
Et du coup...
Ouais. Qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi le plus contraignant, en fait, dans l'affaire ?
Contraignant dans l'affaire, c'est peut-être, oui, l'optimisation au point de vue de la... l'ergonomie de l'installation, quoi. De ne pas s'épuiser à transporter du lait, que physiquement, ce ne soit pas trop dur. Parce que c'est quelque chose qu'on fait, ça peut être tous les jours chez certains producteurs, mais même 2, 3 fois, 4 fois par semaine, il ne faut pas... c'est ça, quoi.
Et dans votre cas, ça va s'organiser comment ? Vous allez avoir du lait de report ou vous allez...
A priori, oui. Bah, ouais. Comme je garde la laiterie, moi, ça me permet de pouvoir décaler les transfos, de me dire, là, je ne fais pas, c'est la laiterie qui vient ramasser. Et du coup, a priori, moi, je transformerai 2, 3 fois par semaine, je pense.
Ah oui. Ouais. Et est-ce que vous avez revu aussi le type de fromage ? Enfin, vous restez sur la tome majoritairement ou vous pensez à autre chose ?
Bah, j'aimerais bien faire un fromage plus frais ou plus type pâte molle aussi. Mais bon, il faut se former pour ça.
Et oui. Et vous avez déjà fait d'autres stages, sinon, à part ce voyage d'études ?
À part ce voyage d'études. J'avais fait c'était une formation du CIVAM d'ailleurs, c'était sur le beurre et la crème d'ailleurs avec Pierre Legrand. J'avais fait des stages du coup dans des fermes qui font une ferme qui fait du fromage à Briec, enfin l'Angoulin.
On en a quelques-unes maintenant, oui.
Et sinon, non, c'est un peu tout comme ça, on accumule, on se documente et puis. C'est sur le tas, quoi. On n'a pas la tradition vraiment ici. Donc,
non, c'est ça. Non, il faut parfois partir loin, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes un petit peu contraint.
Ça, ouais,
vous
êtes
déjà éleveur, quoi. En fait, c'est ça. Souvent, c'est vrai que ceux qui s'installent, ils ont d'abord fait leur stage et puis après, ils commencent à faire leur troupeau.
C'est quelque chose qu'il faut souvent. Il faut y penser avant l'installation.
C'est
quoi,
ça.
Parce qu'une
fois
qu'on est dans l'installation, souvent, c'est difficile de mener un autre projet, quoi.
Et votre associée Natacha, là, justement, est-ce que elle a pu faire des stages ailleurs ?
Oui, bah même elle, au début, elle avait un projet de s'installer en chèvre.
Ah oui.
Et elle, en fait, c'est justement l'absence de filière de chèvre et le fait justement d'être de devoir tout assurer soi-même quand on est en chèvre. Hein, c'est y a pas de laiterie pour ramasser le lait, la transfo, on est obligé de la faire soi-même parce qu'il y a pas de fromager intérimaire en Bretagne.
Non. Ouais.
Et donc c'est ça qui l'a rébuté, quoi, sur ce projet chèvre.
Je comprends. Et à terme, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'une AOC, AOP ? Enfin, ça vous paraîtrait intéressant ? Ou est-ce qu'il y a plus de contraintes que d'intérêts ?
sais pas trop là-dessus, je crois. Il y a une AOP qui s'est montée, je crois, autour du Gouel, non ?
Ah, qu'est-ce que c'est ça, le Gouel ?
Le gros lait, on va dire.
Ah oui, bien sûr, oui, d'accord. Oui. Et donc, vous, Amélie, c'est plus... une AOP, finalement, vous trouvez ça plus contraignant qu'intéressant, c'est ça ? Vous préférez la liberté de créativité, c'est ça ?
Moi, de ce que j'ai retenu un peu des AOP, c'est qu'on obtenait souvent un soutien, parce qu'il y a un groupement derrière pour soutenir tout ça, donc il y a quand même des intérêts. Voilà, soutien même en cas de soucis sanitaires, il y a des techniciens, tout est mis en place.
Ouais.
Mais par contre, il y a beaucoup... les plus industriels s'emparent pas mal de ces filières et ont tendance à ramener, à modifier un peu des pratiques un peu plus fermières. Et je ne suis pas sûre d'être d'accord avec ça.
Ouais,
je
ne vois pas quel produit, en fait, pourrait faire une AOP sur le fromage, comme il y en a
pas. Pour l'instant, non, mais c'est là, oui, je parle à terme. Je parle si tout à coup, il y avait un fromage breton qui émergeait, qui commençait à... Parce que c'est vrai qu'on voit en Franche-Comté, par exemple, la puissance de l'appellation d'origine protégée pour le... Enfin, on ne dit plus AOP, d'ailleurs. Je crois qu'on dit IGP, non ? Non, AOC, non, ouais, moi, je m'y perds un peu.
C'est différente. C'est différentes contraintes.
En tout cas, c'est vrai qu'on voit qu'en Franche-Comté, les éleveurs laitiers, ils n'ont pas l'air d'être trop en crise, quoi. Enfin, ils gagnent correctement leur vie, ils font rarement des manifestations, tout va bien pour eux, on dirait.
Complètement, mais après aussi, le Comté, enfin, il y a... Sur le Comté, vu qu'on parle de cette région-là, il y a aussi pas mal de questionnements au niveau des normes environnementales et comme il y a une très grosse tradition, une très grosse transformation, une très grosse industrie qui vient de là-bas et une très grosse demande en Comté, il y a aussi pas mal de rejets des ateliers de transformation, des résidus de la transformation.
Ah oui, ça pose des déchets aussi, qui ne sont pas exploités.
Pas exploités et qui posent quand même pas mal de questionnements aussi dans les rivières et sur la pollution. Donc du coup, toutes ces AOP, AOC, etc., ont des avantages, mais aussi des inconvénients. C'est vraiment ce qu'on a pu voir en Auvergne. Il y avait vraiment le double tranchant là, sur le Saint-Nectaire, notamment, comme disait Amélie. Ils nous ont dit que quand ils avaient eu des problèmes de fabrication, etc., ils avaient eu un grand soutien de la filière, quoi. Enfin, mais aussi, par exemple, ils ne peuvent pas choisir leur ferment, qu'ils introduisent dans le lait. Il y avait la question du report. C'est vrai que quand on a fini la transfo après la traite du soir à 20h, ça peut poser des questions sur la vie de famille, le bien-être.
Oui, est-ce que c'est vivable, quoi ? Amélie, vous pouvez nous dire en gros comment on fait du fromage ? Qu'est-ce qu'il faut ? Non, mais en gros, les grandes étapes. Hein. Les grandes étapes. Enfin, ça dépend des...
Voilà, donc on récupère le lait à la sortie de traite, qu'on filtre, histoire de ne pas ramener trop de ferments du fumier, par exemple, les crottes, paille, foin, tout ça. Une fois filtré, on met des ferments, on ensemence le lait. Donc, c'est des petites bactéries qui vont consommer le sucre du lait et puis le transformer, quoi. Au bout d'un certain temps, suivant la technique qu'on utilise, on met de la présure. Cette présure,
c'est quoi la présure ?
C'est comme elle va faire une petite colle, en fait. Les ferments vont manger, c'est comme les bactéries vont manger des molécules du lait, donc créer des aspérités.
Les ferments, c'est les bonnes
présure,
bactéries.
La présure, elle fait coaguler, elle les fait coller entre eux, quoi.
D'accord.
Donc voilà, et une fois que ça prend, il y a une partie, la partie solide qui coagule, donc, et la partie liquide qui vient se mettre autour, c'est le petit lait. Donc là, on peut égoutter, mettre en moule, suivant les procédés, on met direct en moule, ou sinon on brasse, on découpe en petits morceaux, fait chauffer.
Donc votre fromage de chèvre, c'est du lait qui n'est absolument pas chauffé, à aucun moment ?
Non, pas du tout.
Voilà. Alors que pour vous, Alexis, peut-être que pour faire une tome, il faut chauffer un moment le lait, non ?
Non, pas nécessairement. On peut le maintenir à température ou le réchauffer, si c'est du lait de report qui a refroidi. Mais par exemple, sur le salaire, on a vu, il travaille tout de suite avec du lait cru qui sort du pied de la vache. Quoi.
D'accord. Mais les difficultés techniques, c'est parce qu'il faut être quasiment chimiste pour faire du fromage de nos jours, non ?
Voilà, chimiste ou notre grand technicien Pierre Legrand nous dit, je crois que c'était lui, en fait c'est un élevage aussi.
Ah oui, on élève des bactéries.
C'est pas une recette, c'est l'élevage de bactéries.
Ouais, c'est
ça. On a trois élevages, on a l'élevage des bactéries dans l'estomac, dans les estomacs de nos animaux, on a l'élevage de nos animaux et on a l'élevage de nos bactéries dans nos fromages.
Oui, parce que selon ce que mangent les animaux, le fromage peut avoir un goût très différent. Et là, se pose la question notamment du changement climatique qui peut être un problème pour vous, Amélie, Qu'il faut qu'elles mangent normalement, les chèvres, pour que ça soit bien?
Il faut qu'elles aient une ration à peu près équilibrée, donc qu'elles trouvent de l'énergie, des fibres, de façon assez équilibrée.
Pour vous, Alexis, il faut plutôt qu'elles soient à l'herbe, c'est ça?
Moi, je fais un système tout herbe maintenant.
Ouais. Donc, s'il fait trop sec, ça peut vous poser un problème?
Voilà, comme l'été dernier, c'est vrai que même j'avais plus de... J'avais pas énormément de vaches, du coup j'avais beaucoup de place, mais au 15 juillet, tout était grillé.
Ouais.
Donc là, c'est du fourrage stocké.
C'est moins bien pour le goût du lait?
Pas forcément, ça dépend quel fourrage, comment il est stocké. Si c'est du foin sec, séché en grange, ça peut être un super fourrage pour faire du lait. On avait goûté du Saint-Nectaire d'hiver, là, qui était fait avec une ration sèche, comme on dit.
C'était très bon.
Il était très bon.
Ah ouais.
Mais c'est sûr que sur les systèmes plus conventionnels d'ensilage, de maïs ou même d'herbe, ça peut poser des problèmes sur la transformation. Mmh. Ça peut apporter des mauvaises bactéries, justement, dans le lait.
Les Auvergnats en ont parlé un peu, Isor, pendant ce voyage, du changement climatique, enfin des...
Oui, complètement, oui. Surtout que eux, l'hiver, bah, ils peuvent pas du tout sortir, quoi.
Ouais.
Donc les animaux sont à l'étable. Et ils en ont parlé, oui, sur les difficultés qu'ils avaient eues cet été à réussir
à faire les foins, quoi.
Les foins. Bah, ouais. Ils font pas vraiment les foins. Ils ont pas un grand rendement.
Ah,
ils achètent pas mal. Ils sont assez peu autonomes sur ces questions-là.
Donc ça leur coûte cher, quoi. Ouais. C'est ça aussi. Ce qui peut-être ne sera pas le cas dans le Finistère, en tout cas.
C'est ça.
J'espère.
Mais après, ils ont plus d'aide en parallèle.
Bon, et bien voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Eh bien, on va vous remercier beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance dans cette fabrication de fromage. Et on retrouvera le CIVAM du Finistère le 16 mars. Ce sera printanier, sans doute, comme émission.